Les féministes vues par un homme, deuxième épisode. Dans une précédente humeur consacrée au féminisme, nous avons vu le lien entre maternité et inégalité de salaire homme-femme en faisant appel aux lumières de Françoise Héritier et de Pierre Bourdieu. Toutefois, la maternité n'est qu'un aspect de la sphère affective. Il y a aussi le désir, la séduction, la générosité et bien d'autres choses encore. Petite précision, je n'aborderai pas ici tout ce qui se rapporte aux violences faites aux femmes, tout en le déplorant, car je n'ai aucune compétence pour en parler. On aurait pu penser que dans les sociétés occidentales, la femme libérée de sa fonction de reproductrice avec les moyens de contraception existants se serait émancipée sexuellement en usant et abusant de la séduction à la manière des déesses grecques. Or, ce phénomène reste minoritaire et limité dans la vie. On peut se demander où est le frein à la libre expression publique d'une sexualité sans tabou. Henri Miller, romancier sulfureux et donc censuré, s'interrogeait au milieu du XXe siècle. Qu'y a-t-il dans le sexe d'une femme? Un calendrier et une boîte à musique étaient sa réponse. Il avait oublié une chose, cet hédoniste de Miller, et c'est Annie Ernaux, romancière à thème sociologique, qui l'ajoute. La honte. Il y a potentiellement de la honte dans le sexe d'une femme. Toute la différence entre l'utilisation des parties génitales de l'homme et de la femme est là. Tout se passe comme si l'acte sexuel chez la femme était un acte engageant plus que son corps, plus que sa personne, tandis que chez l'homme, cette implication serait moindre. Je ne pourrais pas expliquer plus avant cette différence, n'étant moi-même ni femme ni Tirésias. Les féministes en ont fait un slogan « Notre corps nous appartient ». Cela n'empêche en rien de faire du corps de la femme un corps à disposition du désir, à condition qu'elle fasse en sorte d'être désirable, c'est-à-dire qu'elle souhaite partager de nouvelles aventures érotiques. La séduction fait appel non seulement au corps, mais aussi à l'intelligibilité d'un discours amoureux. En d'autres termes, la femme est dépositaire d'une notion vague dans l'esprit de chacun, mais ô combien reconnaissable quand on la rencontre, la beauté. La femme est dépositaire de la beauté depuis l'origine de la civilisation. Comme l'homme, par le biais des conventions sociales, est dépositaire de la puissance, qu'elle soit physique et ou liée au statut patriarcal ou encore au pouvoir. Kant nous dit que la beauté est ce qui se reconnaît sans concept, alors que Stendhal affirme que la beauté n'est que promesse de bonheur. Il est vrai qu'on trouvera beau un paysage, un concert d'oiseaux un matin de printemps, un coucher de soleil au bord de la mer, une femme ou un homme qui passe sur une plage, tandis qu'une bâtisse, une voiture ou un smartphone ne sera beau que pour celui ou celle qui envisage de se les payer un jour. Mais le beau, le bien, le vrai, le sublime, s'ils existent, ne fréquentent pas les mêmes parties de notre cerveau. Avec la sexualité, tout le monde peut avoir le sentiment que le beau est à portée de main et que le bonheur va s'installer avec le plaisir. Plaisir de la rencontre, de la découverte, de l'acte sexuel. Alors que l'on soit femme ou homme, quel que soit l'âge, pourquoi réfréner son désir quand le beau passe à proximité? Tout simplement parce que la honte régit en maître les lois de la séduction et bien plus encore. Qu'est-ce exactement que la honte? C'est un sentiment d'humiliation qu'on éprouve en prenant conscience de son infériorité ou de son imperfection, ou de son impuissance, ou encore de tout sentiment induit par un comportement qui s'écarte de la norme sociale. Ainsi, Dans un monde où faire l'amour se pratique essentiellement au sein du couple, une relation adultère induit un sentiment complexe où la honte joue un rôle. En revanche, dans un monde où l'amour serait, comme chez les bonobos, un acte de reconnaissance sociale, la honte viendrait de l'absence de relations sexuelles avec les autres. La honte met en jeu qui on est face au groupe dans lequel on évolue. Ce sentiment connaît un pic à l'adolescence, qu'on soit fille ou garçon. Puis, avec le temps, chacun s'arrange avec ses blocages. Pourquoi est-il si difficile de dépasser ce stade ? Sans parler de psychologie individuelle, je vois là une caractéristique de notre époque qui, en nous saturant de normes et de bonnes pratiques, favorise l'anxiété. Ajoutons à cette tendance que les incivilités qui laissent sur la victime, en plus du préjudice subi, un sentiment de honte, et nous obtenons un climat qui, au lieu de favoriser la complicité et la bienveillance, pousse vers la paranoïa. D'où une recherche de règles morales strictes. Force est de constater que c'est la religion qui possède la meilleure offre en la matière. Pas la laïcité ni l'athéisme, toute religion qui par ses rites et ses pratiques rassure, réconforte les cœurs meurtris et offre un espace sans intrusion du désir. En théorie, là, tous les cultes apportent une fausse réponse. Par le passé, en France, la religion catholique a dédramatisé la honte des femmes en les rendant dévotes. Prenant au pied de la lettre la parole de Jésus envers Madeleine la pécheresse, « Noli me tangere »,« Ne me touche pas », ainsi étaient-elles rachetées de leur faute entre guillemets. Ainsi troquaient-elles un plaisir coupable contre une rédemption. Qui a renoncé à son démon nous importune avec ses anges, écrivait Henri Michaud, poète du XXe siècle. Dans nos campagnes, il avait fallu un siècle pour ôter de la tête des femmes que le péché se trouvait entre leurs cuisses, jusqu'à ce qu'un autre démon s'empare de l'esprit des femmes, et parfois même de celui des hommes, pour d'autres raisons. Le « qu'en dira-t-on ? » C'est étonnant de voir comment un langage visant à empêcher la libre expression d'une sexualité fondée sur l'échange et le don fleurit à toutes les périodes de l'année. Le don d'orgasme, comme l'a figuré Mystique, une plasticienne et poète française actuelle, peut se pratiquer dans certains pays lors de fêtes, comme carnaval, où durant quelques jours tout est permis. Où sont les libertins, les hédonistes, les épicuriens ? Peu visibles dans la sphère médiatique, on pourrait croire qu'ils ont disparu. Un constat s'impose, la libération des mœurs, ou plus exactement, la lutte contre les discriminations, même sexistes, comme toute libération issue d'une lutte, n'est pas transmissible dans son essence. Elle est le fruit d'un cheminement personnel. Écoutons ces phrases de Michel Houellebecq tirées de son livre « Extension du domaine de la lutte ». Tout comme le système économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produit des phénomènes de paupérisation absolue. Certains font l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie ou jamais. Certains font l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Dans un système économique où le licenciement est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère est prohibé, chacun réussit plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulent des fortunes considérables, d'autres croupissent dans le chômage et la misère. En système sexuel parfaitement libéral, certains ont une vie érotique variée et excitante, d'autres sont réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'est l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Certains gagnent sur les deux tableaux, d'autres perdent sur les deux. Les entreprises se disputent certains jeunes diplômés, les femmes se disputent certains jeunes hommes, les hommes se disputent certaines jeunes femmes. Le trouble et l'agitation sont considérables. Tout comme Houellebecq, dans cette chronique, je n'ai pas utilisé le mot « amour » pour une raison simple, quelle que soit l'époque, les conditions de vie et le régime politique, lorsqu'on croise l'amour, il s'impose à nous. Je sais que le trouble, l'agitation, l'ambiguïté, voire la contradiction sont inscrits en chacun de nous, mais pour peser dans un débat aussi important que l'inégalité homme-femme, il faut des exemples pour que ce qu'on appelle les mœurs change à tous les niveaux de la société, indépendamment des lois. Cela, quelle que soit la forme de notre sexe et les différentes pratiques sexuelles qui apportent plaisir et jouissance. L'histoire de l'évolution humaine n'est pas linéaire, mais en dents de scie. Elle est toujours liée à des luttes visant à s'émanciper. Aujourd'hui, nous sommes dans une vallée profonde. Et si les luttes féministes, dans tous les domaines et tous les âges de la vie, nous aident à sortir de ces ornières, tant mieux, vivement demain. Je termine avec cette phrase de Françoise Héritier qui esquisse le chemin qu'il reste à parcourir. En premier lieu, il nous faut bien comprendre qu'être différent ne veut pas dire inégal. Le contraire de différent est semblable, même. Le contraire d'inégal est égal et non pas semblable. En voyant dans la différence la marque d'une inégalité, nous faisons faire un pas de côté à la langue sans nous interroger. Nous avons changé de registre, philosophiquement parlant, car la différence n'implique pas l'inégalité. À bientôt pour une prochaine humeur, une bonne humeur bien sûr.